Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 30 novembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite un journal suivi d'un commentaire politique. Iran, les entreprises criminelles américaines et allemandes doivent être traduites en justice. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le leader de la République islamique d'Iran a déclaré à l'adresse du premier ministre irakien en visite à Téhéran « Tenez bon contre les ennemis du progrès de l'Irak en vous appuyant sur le peuple et les forces jeunes et motivées. » Escalade de la tension frontière turco-syrienne, consultation entre Amir Abdollahian et Çavuşoğlu. Et puis un attentat suicide fait au moins 3 morts et 28 blessés au Pakistan. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran a déclaré que tout ce qui compromettrait la sécurité de l'Iran affecterait inévitablement l'Irak également. L'ayatollah Sayyed Ali Khamenei appelle Bagdad à exercer une plus grande autorité sur ses territoires, y compris la région semi-autonome du Kurdistan. L'ayatollah Khamenei a fait ses remarques lors d'une réunion avec le premier ministre irakien Mohammad al-Soudani à Téhéran. La conférence et l'unité des groupes à l'intérieur de l'Irak est l'une des nécessités fondamentales pour que le pays atteigne sa position réelle. Le progrès du pays nécessite également la pleine utilisation des forces ukrainiennes jeunes et motivées, a-t-il poursuivi. Il a ajouté « Bien sûr, le progrès de l'Irak n'est pas le souhait de ses ennemis qui peuvent ne pas montrer d'hostilité en surface, mais qui n'acceptent pas un gouvernement comme le vôtre. Par conséquent, vous devez tenir bon face à la volonté de l'ennemi en vous appuyant sur le peuple et la jeunesse motivée qui ont bien résisté aux dangers mortels de Daesh. » Se référant à la déclaration du premier ministre irakien selon laquelle, conformément à la Constitution, l'Irak ne permettra à aucune partie d'utiliser son sol pour porter atteinte à la sécurité de l'Iran, le leader a déclaré « Malheureusement, cela se produit dans certaines parties de l'Irak et la seule solution qui existe est celle qui permettrait au gouvernement central irakien d'exercer une plus grande souveraineté sur ces zones. » Bien sûr, notre point de vue sur la sécurité de l'Irak est que si une partie a l'intention de mettre en péril la sécurité de l'Irak, nous lui résisterons pour protéger l'Irak. Plus tôt, le président iranien Ebrahim Raisi a également rencontré le premier ministre irakien. Tous deux ont souligné l'importance de lutter contre le terrorisme et toute autre source d'insécurité régionale. Le président Raisi a souligné à cette occasion que l'ingérence étrangère n'apportera pas la sécurité et la stabilité dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue turc, Çavuşoğlu, ont discuté mardi soir des dernières évolutions frontalières et des conflits militaires entre la Turquie et la Syrie. Lors de cette conversation téléphonique, Amir Abdollahian a souligné la compréhension de la République islamique d'Iran des préoccupations de sécurité de la partie turque avant d'insister sur la nécessité de répondre à ces préoccupations. La réalisation de cela nécessite la poursuite des pourparlers de sécurité entre Ankara et Damas et non le recours à des opérations militaires au sol. Une telle option contre-productive non seulement ne peut résoudre les problèmes, mais encore causera des dommages et compliquera la situation, a fait remarquer Amir Abdollahian. Le très haut diplomate iranien a également dit prête la République islamique d'Iran à fournir toute assistance pour une solution politique des problèmes opposant la Turquie et la Syrie. Toujours lors de cette conversation, le ministre turc des Affaires étrangères, tout en brossant un tableau détaillé sur la situation actuelle sur les frontières turco-syriennes et les positions de son pays à son égard, a apprécié le rôle constructif de la République islamique d'Iran et a plaidé pour la poursuite de ses contacts. L'Iran met l'accent sur le droit légitime de la Syrie à l'autodéfense face aux attaques intermittentes du régime israélien contre le sol du pays arabe. La sécurité et la stabilité dans le nord de la Syrie ne seront possibles que grâce à la préservation et au respect complet de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, a déclaré Amir Saïd Iravani, ambassadeur permanent de la République islamique auprès des Nations Unies, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU mardi 29 novembre. Toute opération militaire contre le nord de la Syrie pourrait soit poser un défi, soit aggraver la situation humanitaire, a noté le représentant iranien. La Syrie et le régime israélien sont techniquement en guerre en raison de l'occupation des hauteurs du Golan syrien depuis 1967. Israël maintient une présence militaire importante sur cette région qu'il utilise comme rampe de lancement de ses attaques contre le territoire syrien. Les attaques d'Israël contre la Syrie ont commencé à augmenter de manière significative après 2011, lorsque le pays arabe s'est retrouvé aux prises avec le militarisme et le terrorisme endémique soutenus par l'étranger. Les violations récurrentes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie par le régime sioniste et le ciblage délibéré des civils et des infrastructures civiles constituent une violation des lois internationales et humanitaires ainsi que de la Charte des Nations Unies. Le responsable iranien a donc insisté sur le fait que le Conseil de sécurité devait condamner les incursions et les attaques terroristes du régime sioniste contre la Syrie. L'actualité internationale avec un attentat suicide qui a fait au moins 3 morts et 28 blessés mercredi dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, ont indiqué les autorités, précisant qu'une patrouille de police était visée. L'explosion revendiquée par le mouvement des talibans pakistanais, Tahrik-e-Taliban Pakistan, dans un message envoyé à la presse, intervient alors que le groupe a rompu cette semaine un cessez-le-feu avec le gouvernement. Selon la police, l'explosion a touché une patrouille qui montait la garde devant un centre de vaccination contre la police. La mort d'au moins 3 personnes est confirmée, dont une femme et un enfant, et plus de 20 autres ont été blessés. Le groupe terroriste a mené une guerre contre l'État, tuant des milliers de Pakistanais au cours des 2 dernières décennies. Les talibans pakistanais sont associés à des talibans afghans. Leur objectif est de renverser le gouvernement. La ville de Quetta est située dans la province du Baloutchistan, à la frontière de l'Afghanistan et de l'Iran, où des groupes extrémistes et séparatistes armés se cachent et opèrent. Ils constituent une menace pour ces 3 pays. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Iran, les entreprises criminelles américaines et allemandes doivent être traduites en justice. Pour l'Iran, les entreprises allemandes et américaines qui ont fourni à l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein des armes chimiques pendant la guerre imposée des années 1980 sont complices de ces crimes et doivent être traduites en justice. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires juridiques et internationales, Reza Najafi, s'est exprimé lundi 28 novembre devant la 27e conférence des États membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, à La Haye. En tant que plus grande victime des armes chimiques dans l'histoire contemporaine, l'Iran ne pardonne ni n'oublie les auteurs et les partisans des attaques chimiques de l'Irak, a ajouté le diplomate iranien. M. Najafi a exhorté les États membres de l'OIAC à respecter leurs engagements et à lever les sanctions unilatérales inhumaines imposées à l'Iran en violation des principes des droits de l'homme qui bloquaient l'accès des vétérans iraniens victimes des armes chimiques à l'équipement et aux médicaments dont ils avaient besoin. Le régime sioniste est en possession de divers types d'armes de destruction massive et constitue la menace la plus grave pour la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. C'est la cause de l'échec de l'établissement d'un Moyen-Orient exempt d'armes de destruction massive, a-t-il souligné. Il a appelé les États membres de la conférence à prendre des mesures pour réaliser l'universalité de la Convention et à établir un monde exempt d'armes chimiques. Lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, s'est présenté devant les journalistes avec un masque chimique qui faisait allusion au soutien de l'Allemagne à l'ex-dictateur irakien Saddam pendant la guerre imposée à l'Iran de 1980-1988. M. Kanani a déclaré que l'Iran ne coopérerait pas avec la soi-disant mission d'enquête créée après une résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, conçue par l'Allemagne pour enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme lors des récentes émeutes. Téhéran a déjà formé une commission d'enquête nationale chargée d'enquêter sur les événements. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a également déclaré plus tôt que l'Allemagne elle-même était le principal fournisseur d'armes chimiques au régime de Saddam pendant la guerre imposée par l'Irak à l'Iran, armes qui ont été fréquemment utilisées contre le peuple iranien avec des conséquences désastreuses, a-t-il déploré. Maintenant, ils usent et abusent des mécanismes des droits de l'homme et tout cela au nom d'une fausse solidarité avec les Iraniens, a déclaré le haut diplomate iranien. Jeudi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a convoqué une réunion à la demande de l'Allemagne et de l'Islande pour discuter des violations présumées des droits de l'homme en Iran lors des récentes émeutes soutenues par l'étranger dans le pays. L'organisme intergouvernemental a voté la création d'une mission d'enquête internationale indépendante chargée d'enquêter sur les prétendus abus. Cette résolution anti-iranienne a été adoptée alors que des émeutes soutenues par l'étranger ont frappé certaines provinces iraniennes depuis que Mahsa Amini, une femme de 22 ans, est décédée à l'hôpital le 16 septembre, 3 jours après s'être effondrée dans un poste de police. Les émeutes, quant à elles, ont coûté la vie à des dizaines de personnes et de forces de sécurité et engendré des attaques terroristes à travers le pays. Au cours des 2 derniers mois, les terroristes ont incendié des biens publics et torturé à mort plusieurs membres du Basij, la mobilisation populaire iranienne, et des forces de sécurité. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Bahadori Jahromi, a déclaré que l'Allemagne prétendait défendre les droits de l'homme afin d'atteindre ses propres objectifs politiques. Dans un tweet, Bahadori Jahromi a ajouté que l'Allemagne ne sera pas exonérée des crimes qu'elle a commis contre le peuple iranien par le biais de la propagande politique. Un État qui a autrefois aidé Saddam à bombarder les hommes, les femmes et les enfants dans la province iranienne de Kurdistan et qui a imposé par la suite des sanctions illégales contre la nation iranienne, prétend aujourd'hui défendre les droits de l'homme pour des motifs politiques, a-t-il tweeté.
Bonjour et merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans ce débat, il sera question du rapprochement de la Russie avec l'Iran dans les domaines scientifiques, commerciaux, défensifs et surtout politiques. Les deux pays mettent l'accent sur la nécessité de mettre fin à l'hégémonie américano-occidentale. Et bien sûr, il sera également question dans ce débat du transfert de gaz iranien et russe vers d'autres pays, ce qui va évidemment profiter à beaucoup de pays de la région. Sur le plan défensif et militaire et surtout sécuritaire, la coopération entre les deux pays n'a jamais été si forte. Et justement, pour dissiper les malentendus concernant l'Ukraine. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Iran et la Russie ont évoqué une intensification de la coopération. Moscou et Téhéran ont entamé ces derniers temps un important rapprochement. Les hautes autorités iraniennes et russes ont récemment évoqué une série de questions liées aux relations bilatérales et mettant l'accent sur une intensification de la coopération dans les domaines économiques, commerciaux, politiques, sécuritaires et militaires. Le président iranien et son homologue russe se sont récemment entretenus sur une série de questions liées aux relations bilatérales entre les deux pays. Le Kremlin précise que Vladimir Poutine et Sayed Ebrahim Raisi ont aussi abordé le domaine des transports et de la logistique, alors que les économies russes et iraniennes sont sous le coup de lourdes sanctions occidentales. Moscou et Téhéran s'accordent également sur la nécessité de mettre fin à une hégémonie américano-occidentale. L'Iran et la Russie ont signé des contrats d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars en vue de coopérer dans le secteur du gaz. La diplomatie iranienne a expliqué que le plan de l'Iran était d'importer le gaz russe tout en exportant du gaz iranien vers les marchés étrangers, notant que cela profiterait à son pays en réduisant les coûts de transfert du gaz iranien du sud vers le nord. Ce projet conjoint contribuera également à accroître la solidarité politique entre l'Iran, la Russie et les pays intermédiaires tels que le Turkménistan et l'Azerbaïdjan, consolidant ainsi la stabilité politique, la sécurité et la paix dans la région selon les deux parties. Les deux pays s'accordent aussi sur les détails du contrat d'échange de pétrole et de produits pétroliers discuté en octobre lors d'une visite du ministre iranien du pétrole, Javad Oji, en Russie. À cela s'ajoutent des zones franches industrielles et communes conjointes entre l'Iran et la Russie. L'adhésion de l'Iran à l'Union économique eurasiatique favorise la création des zones franches conjointes entre l'Iran et les États membres de cette union, à savoir le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Arménie, la Biélorussie et la Russie, sur la base duquel Téhéran et Moscou ont conclu un accord selon lequel une zone franche conjointe ou une zone d'investissement commune sera créée entre les deux parties afin de pouvoir développer le niveau des interactions économiques, commerciales et industrielles et la coopération dans le domaine de l'énergie, de l'industrie, du tourisme, des centres de transit et de logistique, des transports et des institutions monétaires, bancaires et financières. Jusqu'à présent, l'Iran et la Russie ont tenu au moins 15 réunions sous la forme de la Commission économique mixte irano-russe, au cours desquelles divers documents ont été préparés et signés par les deux parties. La Russie soutient également l'Iran dans le domaine du nucléaire. Face aux soi-disant inquiétudes des Européens concernant le programme nucléaire civil iranien, Moscou a déclaré que les nouvelles mesures nucléaires de l'Iran étaient une réponse à l'irresponsabilité des Américains et des Européens et à l'échec de ce dernier à honorer leurs engagements liés au plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, PGAC, envers l'Iran après le retrait unilatéral des États-Unis du pacte multilatéral. Sur le plan militaire et sécuritaire aussi, la coopération est forte. Pour dissiper les inquiétudes de Kiev quant à une prétendue fourniture de drones par l'Iran à la Russie pour être utilisée dans la guerre en Ukraine, des experts militaires iraniens et ukrainiens se sont récemment rencontrés pour résoudre des malentendus. Depuis de longues années, la République islamique d'Iran et la Fédération de la Russie ont des coopérations conjointes défensives, scientifiques et de recherche, et ces coopérations datent de l'époque avant le déclenchement du conflit en Ukraine.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, des experts des questions internationales qui ont accepté notre invitation, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à votre équipe et bonjour à mon collègue.
Malheureusement, la liaison n'est pas encore faite. Nous allons commencer avec M. Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, M. Luc Michel, la coopération entre la Russie et l'Iran n'a jamais été si forte, surtout dans le domaine politique et défensif. Et les deux pays veulent mettre fin à l'hégémonie américano-occidentale. Que pensez-vous?
J'avais pronostiqué dès 2015 le rapprochement de Téhéran et de Moscou. À l'intérieur de l'organisation de coopération de Shanghai, l'acte Téhéran-Moscou est en train de transformer l'OCS en une contre-OTAN. Tout rapproche l'Iran et la Russie. Tout d'abord, ils ont le même ennemi qui est l'impérialisme américain, qui emploie une politique de sanctions et une politique d'assassinat ciblé. Ils sont alliés dans le domaine du gaz, puisque vous savez que les piliers de ce qu'on appelle l'Association des États producteurs de gaz, qui vise à réapproprier aux producteurs de gaz le marché du gaz, ce sont en Afrique la Guinée équatoriale et l'Algérie, ce sont l'Iran et ce sont les Russes de Gazprom. Enfin, évidemment, ils se sont rapprochés parce qu'ils ont été alliés dans la guerre en Syrie et dans beaucoup de domaines. Ils sont par exemple tous les deux des soutiens du Venezuela. Enfin, l'Iran soutient militairement la marine russe dans le golfe de Guinée et dans l'entrée de l'océan Indien. Et elle soutient les Russes dans ce qu'on appelle la guerre hybride en Afrique. Guerre hybride qui a été inventée par l'Iran au Liban en 2010. Mais le plus important dans tout cela, c'est que les positions géopolitiques de l'Iran ont évolué. C'est une entreprise géopolitique globale. Par exemple, c'est une politique pan-arabe au Liban ou au Yémen. Mais ce qui les rapproche le plus, évidemment, c'est la crise ukrainienne, puisque maintenant l'Iran est sous sanctions depuis des décennies des Américains et les Russes sont sur les mêmes sanctions, avec des vols d'avoir, des chaînes d'avoir, des interdictions de voyager de leurs dirigeants, etc. Évidemment, Moscou ne peut avoir que de la sympathie pour l'Iran.
Je vais m'adresser à nouveau à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Luc Michel, vous avez pronostiqué justement depuis 2015 ce rapprochement très étroit entre la Russie et l'Iran qui a donné beaucoup de résultats, mais dans l'avenir, justement, vous avez évoqué...
C'était une alliance logique. Parce que les positions géopolitiques et géographiques sont complémentaires et parce que généralement avoir un ennemi commun, ça soude une alliance. L'ennemi, c'est l'ennemi américain et l'anti-américain, disent, surtout depuis la crise en Ukraine. C'est le fondement de l'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie qui est en train de s'étendre d'ailleurs en Afrique et en Amérique latine avec le Venezuela et Cuba.
Monsieur Philippe Hugon, est-ce que vous nous entendez? Bonjour.
Oui, je vous entends.
Comment allez-vous?
Ça va et vous?
Bien, très bien. C'est un plaisir de vous entendre. Ça vous est longtemps qu'on ne vous a pas eu dans cette émission le débat. Nous parlons bien sûr du rapprochement de la Russie avec l'Iran qui a donné beaucoup de fruits et ce rapprochement qui va assurer la sécurité de la région et peut-être annuler les sanctions exercées à l'encontre de l'Iran et de la Russie. Et les deux pays veulent mettre fin à l'hégémonie américano-occidentale dans la région. Que pensez-vous?
Je pense que c'est une très bonne chose parce que l'Europe et le monde occidental, d'une manière générale, ont toujours marginalisé à la fois la Russie et surtout l'Iran. Alors que il fallait mener une politique inverse, il fallait mener une politique de rapprochement de façon à éviter tout conflit, qu'il soit militaire, économique, financier, social, et on a pratiqué une politique à l'inverse. Alors il est normal que ça scinde un petit peu le monde en plusieurs bords, si je puis dire. Et en ce qui concerne la Russie et l'Iran et le rapprochement à tous les niveaux d'ailleurs, est plutôt une très bonne chose. Ça permet de rééquilibrer un petit peu la situation qui était très déséquilibrée jusqu'à présent. Donc il est vrai que l'Union européenne étant très proche des États-Unis sur un très grand nombre de dossiers, donc c'était vraiment une très bonne chose et je souhaite vraiment que cette collaboration entre la Russie et l'Iran non seulement aille au bout, mais se développe de façon à rééquilibrer la situation. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, à la fois pour la paix, mais également pour le commerce et l'équilibre financier. Chose qu'on avait bien sûr plus vue depuis très longtemps, vu un certain nombre de dissensions. Et ça, j'estime aujourd'hui que c'est vraiment une très très bonne nouvelle.
Monsieur Philippe Gunn, que pensent les Occidentaux et surtout les Américains de ce rapprochement?
Les Américains et les Occidentaux, bien sûr, sont plutôt contre, surtout les Américains. Il est vrai que le monde occidental ne sait plus trop quelle politique internationale mener aujourd'hui. Et c'est du grand n'importe quoi en matière de collaboration diplomatique. Et surtout, au niveau des accords, je pense que quelque part, ça peut fragiliser les accords entre l'Union européenne et la Russie et l'Iran. Moi, je pense malgré tout qu'il faudrait, au contraire, et il faut, je pense que d'ailleurs dans les années qui viennent, je pense qu'on aura certainement un plus grand rapprochement envers la Russie et l'Iran qu'avec les États-Unis qui créent finalement beaucoup, beaucoup de problèmes à travers le monde depuis 50 ans. C'est quand même les États-Unis qui ont déclenché un maximum de conflits, hein, tout ça pour des intérêts financiers, sans tenir compte du bilan humain de la situation. Vous savez, depuis 50 ans, des centaines de milliers de gens sont morts pour de très mauvaises raisons. Et ça, on est vraiment responsable de cette situation. Il est temps que ça cesse et qu'on retrouve un véritable équilibre.
Absolument. Monsieur Luc Michel, concernant la coopération entre les deux pays, le transfert du gaz de l'Iran et de la Russie vers d'autres pays qui va certainement profiter à beaucoup de pays, que pensent les Occidentaux qui sont en manque donc du gaz et des États-Unis?
Écoutez, ils ont une stratégie qui a échoué. Le principal pilier de l'alliance entre Moscou et Téhéran, c'est le domaine du gaz. C'est ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, c'est-à-dire l'association des États producteurs de gaz. Le premier sommet a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, en 2019. Le second sommet a eu lieu il y a quelques mois à Doha. Les Américains disent que l'Iran est l'épée géopolitique de la Russie dans le domaine du gaz. D'une part, ils ont arraché le marché du gaz que les Américains contrôlaient avec des hydrocarbures de schiste depuis 2015. Mais deuxièmement, ils ont permis à la Russie de maintenir le contrôle du domaine du gaz en Europe en n'acceptant pas de se substituer à la Russie pour fournir le gaz aux Européens. Donc la stratégie des Européens et des Américains, c'est un total échec. Aujourd'hui, les Européens, évidemment, voudraient limiter le prix du gaz et le prix du pétrole. Ils ne comprennent pas que dans l'offre du marché, qui est le principe de leur libéralisme, ce sont C'est l'offre qui conditionne le prix. Dès lors, les Européens pourront à l'échec. En limitant le prix du gaz ou du pétrole, ils vont simplement concourir à augmenter ses prix sur le marché mondial. Parce que le pétrole, le gaz va devenir plus rare.
Absolument. Monsieur Philippe Hugon, que pensez-vous des propos de M. Luc Michel concernant le transfert de gaz iranien et russe et cette coopération?
Oui, bien, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter dans le sens où Luc Michel a bien sûr tout à fait raison dans son analyse de la situation. Et il est vrai qu'en Europe, nous n'avons bien sûr pas ces richesses naturelles qui nous permettent d'être indépendants. Donc nous devons composer forcément avec tous ces pays. Moi, je le redis encore une fois, je pense qu'on fait une très grosse erreur de considérer la Russie comme elle est considérée actuellement en Europe. Et il y a une telle désinformation sur les actions de la Russie à travers le monde. Et par contre, en ce qui concerne les États-Unis, c'est le silence absolu. Et on voit une sorte d'omerta concernant les actions politiques des États-Unis à travers le monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment regrettable. Et cette désinformation que nous avons d'une façon perpétuelle et continue dans les médias sur les politiques menées à la fois par l'Iran, mais par la Russie, pour les transferts de gaz, bien sûr, mais c'est l'économie d'une manière générale, et c'est tout bonnement pitoyable la situation auquel on assiste aujourd'hui, quoi. Et malheureusement, il n'y a toujours pas eu de rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, et j'entends une véritable collaboration qui permette d'installer des relations sûres et durables. Et ça, c'est vraiment un véritable problème. J'espère que la situation dans les années qui viennent, de toute façon, il faudra bel et bien que les choses changent si on ne veut pas avoir une situation se dégrader d'une façon dramatique.
Absolument. Monsieur Luc Michel, parlons de désinformation justement. Concernant la politique de sanctions que vous avez évoquée tout à l'heure des États-Unis à l'encontre de l'Iran et de la Russie, est-ce que cette coopération pourra aider pour annuler et contourner ces sanctions afin de développer donc l'industrie par exemple et surtout le nucléaire?
D'autant plus que l'Iran a une longue expérience pour contourner les sanctions, en particulier le corridor Caracas. Téhéran, Dakar au Sénégal. Les Iraniens et les Russes ont réussi à étendre leur alliance à l'Afrique. Les piliers de l'OPEP du gaz, ce sont l'Algérie et la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, on l'oublie souvent, c'est l'État leader dans le domaine de la production du gaz. Ils ont un complexe ultra moderne qui s'appelle Punta Europa, sur l'île de Bioko, près de la capitale Malabo, qui est à la pointe de la production industrielle du gaz, et ils apportent leur technologie à toute l'OPEP du gaz. C'est pour ça que ce sont eux qui ont organisé le premier sommet en juillet 2019. L'Afrique est en train d'échapper aux mains des Occidentaux. Par exemple, le président du Sénégal, de Macky Sall, qui est arrivé au pouvoir avec l'aide des Français et des Américains, en 2014, a opéré un retournement géopolitique en 2018. Il est aujourd'hui le principal allié de l'Iran et de la Russie dans le domaine de la production du gaz. Voilà ce qu'il faut revenir dessus. Donc c'est une alliance qui est très importante pour le contournement et la neutralisation des sanctions. Le deuxième, évidemment, c'est que l'Iran va soutenir la dédollarisation du monde du pétrole, qui est opéré par Moscou avec le soutien des gens de Pékin. Moscou va dédollariser le marché des hydrocarbures. Les Américains vont perdre l'un de leurs principaux leviers de pression sur les États producteurs.
Absolument. On ne peut être que d'accord avec M. Luc Michel à présent. Bon, M. Philippe Hugon, est-ce que je peux connaître votre prise de position à l'égard de la politique de sanctions des États-Unis à l'encontre de la Russie et de l'Iran, donc cette coopération qui va évidemment beaucoup aider à la neutralisation de ces sanctions. Et bien sûr, les États-Unis voient ça d'un très mauvais œil. Oui.
Oui, comme vous venez de le dire, c'est vrai que cette collaboration va neutraliser un certain nombre de décisions prises par l'Union européenne et les États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui orchestrent bien sûr toutes ces sanctions. Maintenant, moi qui me suis rendu de nombreuses fois en Iran, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que l'on peut sanctionner l'Iran. On veut sanctionner un pays qui demande à exister et à vivre normalement. C'est absolument monstrueux de voir que les Américains et les Européens puissent envisager de telles sanctions. Quand on veut qu'un pays se développe, on ne leur met pas des sanctions. Au contraire, on essaye plutôt de les aider et de comprendre la situation. Alors moi, je trouve que tout est possible. Politicienne est déplorable, et on veut utiliser les sanctions, c'est-à-dire quelque part d'utiliser la force, d'utiliser une certaine force de frappe pour contraindre un certain nombre de pays, mais on n'est plus il y a 100 ans en arrière. Les choses ont évolué, il faudrait quand même que les politiciens européens et américains comprennent qu'ils ne sont plus des maîtres du monde et qu'un certain nombre de pays comme l'Iran, la Russie ont le droit d'exister, de mener leur propre politique. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, en 2022, qu'on puisse encore avoir ces réactions vis-à-vis d'un pays, et dans le cas de l'Iran par exemple, un pays qui ne représente strictement aucun danger. Et si demain l'Iran avait des missiles nucléaires, des tas de bombes atomiques, l'Iran ne s'en servirait pas. Et c'est une erreur de considérer l'Iran comme un pays ennemi. L'Iran est un pays qui mérite d'avoir sa place au premier plan mondial des économies, et qui a le droit de se développer à sa vitesse, en fonction de ses propres idées, et ne surtout pas considérer l'Iran comme un pays qui peut créer des problèmes. Ce pays n'a jamais créé de problèmes. Pourquoi voulez-vous que l'Iran crée des problèmes aujourd'hui ? L'Iran n'a jamais créé, je le répète encore une fois, n'a jamais créé le moindre problème sur la scène internationale, si ce n'est que de trouver des alliés de façon à pouvoir garantir sa sécurité, aussi bien militaire qu'économique et financière, alimentaire, enfin dans tous les domaines. Arrêtons cette politique d'agression envers tous ces pays et le monde se portera mieux.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien répondre à Monsieur Philippe Hugon, sa grande question, qui doute justement pourquoi ces pays-là réagissent ainsi à l'encontre de l'Iran et de la Russie?
Le bloc américain occidental, c'est le bloc de l'impérialisme. Il reprend l'impérialisme américain, l'impérialisme français, l'impérialisme allemand, etc. Mais c'est aussi le bloc du néocolonialisme. Le colonialisme occidental a essayé de détruire l'Iran du temps de la Perse et dans les débuts de l'Iran. Le guide iranien a appelé il y a quelques semaines que le contentieux entre les États-Unis et l'Iran n'avait pas commencé avec la révolution islamique, mais qu'il avait commencé avec le coup d'État contre Mossadegh en 1953. La Russie a été aussi victime à la fin de la guerre froide du tentative de colonisation par les Américains. C'est la décennie d'Eltsine où la Russie a été vendue à leur clan par ce qu'on appelait à l'époque des oligarques, les hommes comme Berezovsky, comme Khodorkovsky, etc., qui ont été neutralisés par Poutine. Donc l'alliance anticolonialiste de l'Iran et de la Russie, elle est logique. Les Occidentaux représentent le vieux monde, celui du colonialisme, de l'esclavage et de l'exploitation. L'Iran, la Russie, avec la Chine, ils représentent le monde de demain, le monde multipolaire où l'impérialisme n'a plus sa place.
Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à Monsieur Philippe Hugon depuis Paris d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous. We'll be right back.
très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a reçu ce mardi 29 novembre le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani et la délégation l'accompagnant. Lors de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a déclaré que les progrès de l'Irak et sa position plus élevée sur la scène mondiale sont dans l'intérêt de la République islamique d'Iran. Nous avons la conviction que vous êtes une personne qui a la capacité de faire avancer les affaires de l'Irak et d'amener ce pays à une position indépendante, digne de sa civilisation et de son histoire, a-t-il indiqué. Présentant ses félicitations à M. al-Soudani pour son élection au poste de Premier ministre, le leader de la révolution islamique l'a qualifié de personne croyante et compétente, dont la nomination à la tête du gouvernement irakien est une source de joie. L'ayatollah Khamenei a souligné que l'Irak est l'un des meilleurs pays arabes de la région en termes de ressources naturelles et humaines, mais aussi du point de vue culturel, historique et civilisationnel. Malheureusement, l'Irak n'a pas encore été en mesure d'atteindre sa position élevée et nous espérons qu'avec la présence de votre Excellence, l'Irak réalisera des progrès et accédera à sa réelle position, a réitéré le leader. La cohérence et l'unité des groupes à l'intérieur de l'Irak sont l'une des nécessités fondamentales pour que le pays atteigne sa réelle position. Le progrès du pays exige également l'utilisation complète de forces irakiennes jeunes et motivées, a-t-il poursuivi. Il a ajouté : Bien sûr, le progrès de l'Irak n'est pas le souhait de ses ennemis, qui ne montrent peut-être pas d'hostilité en apparence, mais qui n'acceptent pas un gouvernement comme le vôtre. Vous devez donc rester ferme contre la volonté de l'ennemi en vous appuyant sur le peuple et les jeunes motivés qui ont bien résisté au danger mortel de Daesh. Se référant aux propos du Premier ministre irakien selon lesquels, conformément à la Constitution, l'Irak n'autorisera aucune partie à utiliser son sol pour porter atteinte à la sécurité de l'Iran, le leader a déclaré « Malheureusement, cela se produit dans certaines régions d'Irak et la seule solution qui existe est celle qui permettrait au gouvernement central irakien d'exercer une plus grande souveraineté sur ces zones. » Bien sûr, notre point de vue sur la sécurité de l'Irak est que si une partie a l'intention de mettre en péril la sécurité de l'Irak, nous lui résisterons pour protéger l'Irak. Selon le leader, la sécurité de l'Irak est celle de l'Iran, tout comme la sécurité de l'Iran affectera également celle de l'Irak. En allusion aux négociations du Premier ministre irakien avec les autorités de Téhéran, le leader a précisé que lors des périodes précédentes, de bonnes négociations et ententes se sont effectuées sans qu'elles soient mises en œuvre. Par conséquent, nous devons aller dans le sens de l'exécution de tous les accords, en particulier en ce qui concerne la coopération économique, les échanges de marchandises et les communications ferroviaires, a-t-il ajouté. Le leader de la révolution islamique a pointé du doigt certaines volontés visant à empêcher l'entente et la coopération entre l'Iran et l'Irak, sans manquer de dire qu'il fallait passer à l'action pour les surmonter. Lors de cette réunion à laquelle a également assisté le président iranien Ebrahim Raisi, le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani a souligné les relations stratégiques et historiques entre l'Iran et l'Irak et a déclaré « La guerre contre Daesh a été un exemple clair de la coexistence de l'Iran et de l'Irak, où le sang des Iraniens et des Irakiens a été mélangé dans la même tranchée. » Il a également rendu hommage à la mémoire du général Rassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mouhandes, considérant ces deux nobles martyrs comme des exemples de l'union des deux nations. Al-Soudani a déclaré que le nouveau gouvernement irakien est résolu à mettre en œuvre les accords bilatéraux et à élargir les relations dans divers domaines, notamment dans le domaine économique. La sécurité de l'Iran et de l'Irak est indissociablement liée et conformément à la Constitution, nous ne permettrons à aucune partie d'utiliser le sol irakien pour saper la sécurité de l'Iran, a-t-il déclaré. À la tête d'une délégation politico-économique, le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani, qui se rend pour la première fois depuis sa prise de fonction dans un pays non arabe, est arrivé à Téhéran ce mardi matin 29 novembre. Un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a déclaré que les derniers missiles hypersoniques du pays peuvent rendre inopérants les boucliers de défense antimissiles des ennemis pendant de nombreuses décennies. Le commandant de la force aérospatiale du CGRI, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, a fait cette annonce lors de la visite lundi 28 novembre d'une délégation du gouvernement à une exposition des réalisations de cette force. La force aérospatiale du CGRI a réussi à atteindre un niveau de dissuasion remarquablement élevé dans le domaine des industries des missiles, des drones, de la défense aérienne, des avions, des radars et de l'espace. Sa dernière réalisation, missile hypersonique, est capable d'inactiver les boucliers de défense antimissiles des ennemis, y compris les États-Unis, le régime sioniste et les États qui leur sont assujettis pour de nombreuses décennies, a affirmé le commandant. Le général Hajizadeh a ajouté que les jeunes élites iraniennes ont réussi à ouvrir la voie vers le progrès de l'industrie de défense, ajoutant que cette expérience pourrait être mise à profit dans d'autres secteurs, y compris le secteur économique, pour résoudre les problèmes et réussir de nouveaux progrès. Plus tôt ce mois-ci, le général Hajizadeh a annoncé que le pays avait développé un missile balistique hypersonique de fabrication 100% nationale, capable de pénétrer des boucliers de défense aérienne sophistiqués et de frapper des cibles envisagées. Les experts et techniciens iraniens dans le domaine de l'industrie militaire et défensive ont réussi ces dernières années des progrès substantiels dans la fabrication d'une large gamme d'équipements indigènes, ce qui a garanti aux forces armées de la République islamique d'Iran une autosuffisance dans le domaine des armements. Des responsables iraniens ont averti à plusieurs reprises que le pays n'hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, qui sont entièrement destinées à la défense, affirmant que les capacités de défense de la République islamique d'Iran ne feraient jamais l'objet de négociations. Des sources d'information ont fait état d'une opération anti-israélienne dans la région de Shaar Binyamin, près de Ramallah, en Cisjordanie. Des sources palestiniennes locales ont rapporté que l'auteur de l'opération avait percuté une femme soldate de l'armée israélienne avec une voiture dans l'est de Ramallah. Dans les toutes premières heures suivant cette opération, certaines sources ont rapporté que l'auteur de cette opération avait été tombé en martyr par les balles des soldats israéliens, tandis que d'autres ont affirmé qu'il avait été blessé lors de l'opération et se trouvait dans un état critique. Finalement, des médias palestiniens ont confirmé la mort en martyr de l'auteur de cette opération. L'attaque à la voiture bélier intervient alors que, selon le ministère palestinien de la Santé, un jeune palestinien nommé Raed Razi al-Nassan a été tué en martyr mardi dans le village d'Al-Marir au nord-est de Ramallah après avoir reçu une balle dans la poitrine par les soldats sionistes. 5 Palestiniens ont été tués en martyr mardi 29 novembre par les soldats israéliens. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 3 Palestiniens ont été tués dans des heures nocturnes avec les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée. Selon le ministère, un Palestinien a succombé après avoir été blessé par balle à la tête par l'armée de l'occupation sioniste à Beit Oumar, près d'Al-Khalil, et 2 frères ont été tués par des tirs de sionistes à Kafrein, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Selon le Croissant Rouge, 22 Palestiniens ont été blessés lors de ce raid israélien, dont 9 ont été visés par des balles réelles des forces de l'armée israélienne. Les forces de sécurité libanaises ont arrêté un Libanais soupçonné d'avoir espionné pour l'agence d'espionnage israélienne Mossad et de collaboration avec les autorités du régime sioniste en prenant des photos de centres commerciaux et en recueillant des renseignements sur un citoyen palestinien vivant dans le pays arabe. Selon un rapport publié mardi 29 novembre par le quotidien arabophone Al-Akhbar, l'homme de 46 ans, identifié uniquement comme Farid H, a été interpellé par des membres de la Direction générale de la sécurité du Liban. Le rapport ajoute que l'espion présumé du Mossad, comme plusieurs ressortissants libanais qui ont récemment été attirés par des réseaux d'espionnage que des agents israéliens ont mis en place dans le cyberespace, était en contact avec l'agence de renseignement israélienne depuis environ 2 ans. Citant les informations recueillies par la Direction générale de la sécurité du Liban, Al-Akhbar a noté que Farid était apparemment membre du Parti socialiste progressiste libanais et n'avait reçu que 1 000 dollars américains pour ses activités d'espionnage. Le suspect, titulaire d'un diplôme en administration des affaires, a déclaré avoir publié des dizaines de candidatures sur divers sites web et plateformes de médias sociaux, dont Facebook, auprès d'organisations qui avaient besoin d'employés diplômés dans le domaine connexe. L'évolution survient plus d'une semaine après qu'un autre Libanais, identifié comme Hossein H, a été arrêté au Liban, soupçonné d'être un espion du Mossad. Hossein aurait espionné pour le Mossad de 2011 à 2020. Les services de renseignement libanais auraient été informés de l'activité de Hossein pour le Mossad par ses voisins dans sa ville natale de Rassaniya, après avoir constaté une nette amélioration de ses conditions de vie. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.